Cyborg. Abaissez vos boucliers et rendez-vous sans condition. Nous intégrerons vos caractéristiques biologiques et technologiques aux nôtres. Votre culture s'adaptera à nos besoins. Toute résistance serait futile.
Libre Radio, la radio phagocyte. Toute résistance est vaine. www.libradio.org.
Ça fait 6 ans depuis qu'on a construit une plateforme, et on a commencé à tester une plateforme ici à Genève et un peu partout en Europe. Et ce qu'on a fait, on a avec le même idée, c'est de construire un truc pour upvoter, downvoter les idées, les commentaires et les questions vers les politiciens, les bureaucrates, les gens dans le gouvernement. On a passé au niveau local, en Royaume-Uni, on est allé au Portsmouth, United Kingdom, pour parler avec les gens, les étudiants universitaires. On est allé à Bruxelles, dans l'Union européenne, pour voir avec les membres du Parlement européen sur les thèmes et les grandes questions de l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Récemment, on est allé à Nations Unies pour parler sur les objectifs de développement durable avec les gens qui ont gagné le prix Nobel, les exécutifs de Nations Unies, les chefs d'État. Mais aussi, on était ici en Suisse, au niveau régional, national, pour voir vraiment comment on peut faire une démocratie vraie, mais à l'échelle. On a commencé, donc on a passé tellement du temps, et après tout ça, on a vu, d'accord, peut-être on peut avoir une théorie de comment tout ça peut marcher. Donc on a vu, c'est pas une, c'est une ADN, mais c'est pas une double hélice, mais c'est très. On voit trois verticales de ce qu'on parle. Après, j'imagine que vous savez qui est ça, c'est Johannes Gutenberg, inventé à l'imprimante. C'est Mark Zuckerberg, un jeune homme de Boston. C'est Konrad Gassner, c'est lui qui vient de Lausanne, juste quelques kilomètres d'ici. Et c'est Sergey and Larry de Google. D'abord, on a vu, après toutes ces réflexions pendant notre expérience avec GoFace, on a vu que la diffusion, c'est essentiel pour une conversation au niveau de la société. On a vu que Gutenberg, il y a à peu près 600 ans, a dit, qu'est-ce que c'est une presse? Certes, mais c'est une presse, mais d'où coulera des rivières inépuisables de la liqueur la plus abondante et la plus merveilleuse qui a jamais coulé pour étancher la soif des hommes, comme une nouvelle étoile et dispersera les ténèbres de l'ignorance et fera briller parmi les hommes une lumière jusqu'à l'inconnu. Ce qui est intéressant, quand il a créé sa machine, il n'y avait que 30 000 livres en existence. 150 ans après, il y avait 500 000 à peu près. Donc on voit que cette avance dans la diffusion d'informations, c'est incroyable. Ça fait pas longtemps qu'il y avait un jeune homme, Zuckerberg, qui a créé aussi une machine de diffusion. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant son IPO, en 2012, il a dit plus ou moins la même chose que Gutenberg. Il a dit, un des principes fondateurs de Facebook, c'est l'idée que si les gens ont accès plus facile à l'information, et sont plus connectés, ça rendra le monde meilleur. Les gens auront une meilleure compréhension du monde et plus d'empathie. C'est le principe de base de Facebook pour moi. Mais c'est intéressant aussi parce que pendant les dernières 600 ans, on voit qu'il n'y a que 130 millions de livres qui existent. Mais chaque jour, en Facebook, il y a 500 000 commentaires par minute et 350 importations de photos par jour. Donc ce qu'on voit, c'est une croissance de diffusion qu'on ne peut jamais imaginer. Mais il y avait aussi, après toutes ces réflexions, il y avait une question, d'accord, c'est quoi la diffusion sans avoir l'organisation? Moi, je dirais, c'est plutôt le chaos. Monsieur Gessner de Lausanne, il y a quelque chose qui m'intéressait. Il a vu l'importance d'avoir une organisation d'information beaucoup plus avant Sergi et Larry. Il a décrit comment le monde moderne a submergé les gens des données et que cette surabondance était à la fois confusante et nébuleuse. Il a cherché à créer une bibliothèque universelle de tous les livres en existence. C'était fou, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 500 000 livres en existence. Larry, il a écrit, vous pourrez voir, il a dit presque la même chose en 2006 que Gessner. Vous voulez accéder autant que possible afin que vous puissiez comprendre ce qui est le plus pertinent. La solution n'est pas de limiter les informations que vous recevez. Vous voulez que les connaissances du monde entier soient directement liées à votre esprit. Et c'est vrai. Et on peut voir chaque jour, chaque fois qu'on fait le Google, on est bien dans cet esprit. La bibliothèque de Congrès aux États-Unis, c'est la plus grande bibliothèque du monde. Chaque année, il y a 1,75 million de visiteurs dans cette bibliothèque. Mais chaque année aussi, avec Google, on voit qu'il y a 1,2 billion de visiteurs sur Google. Encore exactement comme la presse de Gutenberg, les machines de Zuckerberg, on voit qu'il y a une croissance de technologies qu'on ne peut jamais, jamais imaginer. Je dirais, d'accord, ok, avec les amis, les cofondateurs de GoFace, on était là, à fongite, en discutant, d'accord, qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée qu'on peut donner? On a la diffusion, c'est vrai, c'est Zuckerberg qui a, il y a aussi l'organisation Google, bon, on ne peut jamais être en compétition avec eux, mais peut-être il y a quelque chose à faire dans l'espace d'interaction. C'est le troisième pilier de ce ADN que peut-être on peut attaquer. Léon, en 1760, a dit, c'est Joseph Priestley, plus les moyens de communication sont élaborés, moins nous communiquerons en réalité. Moi, je suis d'accord. Donc, des fois, on confuse cette diffusion d'informations, nos clics sur Google, nos recherches, pour un sort d'engagement, un sort d'interaction. Monsieur George Bernard Shaw, en 1900, a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit que c'est le plus grand problème dans la communication, c'est d'avoir l'illusion qu'elle est soit dans une relation, soit au travail, soit avec nos enfants. On voit que s'il y a une illusion de communication, et si cette communication n'est pas réellement passée, qu'est-ce qu'on a? C'est pas que les gens n'ont pas essayé. Le premier CTO de Facebook, Adam D'Angelo, il a un petit business, une petite plateforme qui s'appelle Quora. J'imagine que vous savez ce qu'est Quora. Mais même Quora, ils ont 180 millions de personnes utilisateurs par mois. Mais chaque jour, il n'y a que 12 000 personnes qui demandent des questions. Donc vous imaginez les statistiques. OK, 180 millions de personnes sur la plateforme et il n'y a que 12 000 questions par jour. Il y a quelque chose là. Reddit, c'est le sixième plus grand site web au monde. Le but de Reddit, c'est de demander des questions, soit aux experts, soit aux gens qui ont le même intérêt, mais même sur Reddit, le sixième plus grand site web du monde, il n'y a que 4000 Ask Me Anything chaque année. Et le Ask Me Anything, c'est une session faite par les gens, Bill Gates, Obama, et c'est un effort de donner les gens accès personnel 4000, sixième plus grand site web du monde. Et aussi change.org, c'est un autre exemple de ce qui peut être fait. C'est une façon de prendre un message vers le haut, vers les leaders, vers les chefs, vers les gens qui peuvent faire directement un impact. Même sur change.org, avec une centaine de millions de personnes sur cette plateforme, on voit qu'il n'y a que 12 campagnes chaque jour. D'accord, on a les trois piliers, on a une triple hélice. C'est notre ADN de communication numérique en ligne pour le gouvernement, pour la bureaucratie, aussi pour les politiques. On a notre ADN. Après tout ça, donc c'était en 2015 qu'on a commencé à réfléchir, même après tout ça, on a vu qu'il y a quelque chose qui manque. C'est arrivé il y a un an. On a commencé à voir, surtout avec les élections chez moi aux États-Unis, qu'il y a quelque chose qui manque. C'est quelque chose de plus profond. Ce n'est pas nécessairement la structure, les verticales. Ce n'est pas nécessairement la structure de l'ADN, mais c'est les liaisons qui combinent ces petites molécules de cet ADN. On voit que ce n'est pas nécessairement l'architecture. Si l'architecture, ils n'ont pas une façon de mettre ensemble, ça va tomber. Ça, c'est clair. On voit qu'il y a quatre sortes de combinaisons, de liaisons de ces molécules. Moi, je dirais que c'est la confiance, c'est la vérification de l'utilisateur. On voit bien, on réussit, ce qui se passe. C'est la sécurité, c'est la protection des données. Si on n'a pas ça, on n'a absolument rien du tout comme une structure, comme un cadre pour parler avec les autres, d'en bas jusqu'en haut. C'est aussi l'authenticité. Si je ne peux pas regarder dans vos yeux pour parler, pour partager un petit mot, il n'y a rien. Le problème, c'est qu'on a les gens avec des millions de suivants sur Twitter, Facebook, ils parlent à nous comme une presse. Mais aussi, c'est la proximité, c'est la pertinence d'information, c'est la pertinence de conversation qui vient chez toi. Qu'est-ce que c'est si ça n'a rien à voir avec ma vie? Moi, je ne ferai un argument, bon, c'est juste un petit essai. Je dirais que peut-être ces quatre liaisons sont aussi essentielles par rapport à l'architecture qu'on a identifiée avec notre petit plateforme. Il y a quatre leçons. La première leçon, c'est diffuser, reproduire, diffuser les informations. C'est assez facile. Bon, ça, c'est Gutenberg, Zuckerberg. Leçon 2, pour organiser, regrouper, classifier les informations, c'est pas nouveau. Hein. Déjà vu. Interagir, pour connecter, discuter l'information avec les autres, mais ça, c'est dur. Ça, c'est notre essai avec Office. Leçon 4, la dernière leçon, c'était l'architecture ADN dépend complètement de la force et la résilience des liens qui maintiennent les structures ensemble. Merci.
Merci beaucoup, John Mark, qui donne beaucoup de choses à réfléchir. Nous accueillons maintenant Alexis Roussel, qui va nous entretenir et nous parler d'un sujet très important. Alexis, je te passe la parole.
Bonjour. Donc, Alexis Roussel, moi, ça fait maintenant... depuis une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine du numérique. C'est vaste, le domaine du numérique. Je suis juriste à la base, spécialiste je me suis spécialisé en nouvelles technologies dès les années... je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais sinon je me suis vraiment spécialisé dans le droit du numérique en 2000, en intégrant un des premiers troisième cycle en France, à Nanterre, sur le droit public des nouvelles technologies. Et un de nos travaux depuis le début, et je m'intéressais à ça, c'était la protection des données, c'était comment est-ce qu'en fait on peut agir en tant qu'individu sur ces réseaux-là et conserver son indépendance, conserver le contrôle des choses. Alors à cette époque-là, fin des années 90, c'était encore le Far West, on pouvait encore scanner des ordinateurs sans se faire attraper par la police. Mais il y avait quand même déjà pas mal de choses qui se passaient et on avait déjà à l'époque un gros sentiment d'échec. Un gros sentiment d'échec parce qu'on voyait finalement... Alors à Paris à ce moment-là, quand j'étais à Paris en même temps, il y avait un Big Brother Award. C'est en fait finalement une sorte de compétition où on donnait un prix à l'État ou au projet public le plus privatif de liberté et le plus dommageable pour le citoyen dans son aspect numérique. Et pourtant, nous, on apprenait l'existence de lois pour la protection des données. On voyait qu'il y avait une évolution. La protection des données, c'était un domaine qui était en train de se construire de manière assez forte. Et pourtant, sur toutes ces années-là, à force d'accompagner, d'observer cet événement, enfin ce domaine-là, à travers mon expérience professionnelle d'abord, dans aux Nations Unies, j'étais spécialiste de gouvernance électronique, à travers mon militantisme, certains savent que je suis membre d'un parti qui travaille sur la société numérique. Et sur ces questions liées au numérique, et puis à travers aussi mes origines idéologiques qui viennent du monde du hacking, du monde des hackers, du cypherpunk, c'est ces domaines-là dont je viens, on se rendait compte que chaque fois, chaque nouvelle loi sur la protection des données ne faisait que finalement nous montrer qu'il y avait des problèmes de plus en plus grands. Je dirais, il y avait un mismatch complet. Les leaks de données augmentent, hein, les problèmes liés deviennent de plus en plus profonds, on essaye d'augmenter des lois, de faire des nouvelles lois, et c'est toujours l'échec. Et le RGDP finalement qui arrive, le RGDP c'est le règlement européen sur la protection des données, moi je suis convaincu, va absolument rien changer. On n'a rien changé, pourquoi ? Parce que déjà il fait 88 pages. 88 pages, c'est un document énorme, extrêmement technique. Comme d'ailleurs toutes les lois sur la protection des données, c'est un document technique, fait par des techniciens, que personne ne comprend. Moi j'ai essayé de les lire, je suis juriste, j'en comprends une partie, si je me mets dedans, ça me coûte beaucoup d'efforts, et puis on voit bien qu'il y a tout un écosystème professionnel qui s'est construit autour de ces lois. Mais finalement, le citoyen, lui, il comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Donc, c'est un échec, et puis on voit bien que toutes ces lois, finalement, alors elles peuvent créer des amendes supplémentaires, mais quand on arrive à des cas vraiment concrets, comme Cambridge Analytica, on est totalement démunis. L'affaire Monia, ce qu'on a eu quelques années en Suisse, pareil, on était entièrement démunis face à ça, et toujours, rien n'a changé. Alors la question que je me suis posée, c'était mais pourquoi est-ce que ce droit, finalement, n'est pas accessible pour le citoyen. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose qui soit vraiment utile, finalement. Je me suis rendu compte en étudiant ça que d'abord, les textes de la loi sur la protection des données, les indications qu'il y avait dans notre constitution, les lois, les règlements européens, l'ensemble des textes européens, dans le droit européen, considèrent que les données personnelles, ce sont des objets. C'est pas quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose qui généralement appartient à quelqu'un d'autre. Au mieux, vous avez droit à la protection contre l'abus des données qui vous concernent. Oui. Dans l'univers, lorsqu'on parle à des gens, les gens parlent de leurs données. C'est mes données. Mais en réalité, le droit n'a jamais consacré le fait que vos données pouvaient être les vôtres. Alors, il y a un mismatch dans le, entre le discours des gens et puis la réalité juridique. Et c'était au point où on avait organisé une conférence il y a 4 ans avec le préposé à la protection des données à Genève, et où un professeur de droit des données personnelles disait devant tout le monde « Oui, mais ce sont mes données personnelles. » Et moi, je sais pas, non, ça l'est pas, en fait. Il y a un mismatch. Donc tout ça fait, on peut se demander quelle est l'efficacité de ça. Vous voyez, regardez par exemple le combat de Schrem, Mark Schrem, pour faire plier Facebook. Ça a été un combat extrêmement difficile. Ça lui a pris des années, des années. Alors il a eu un résultat, oui c'est bien, mais c'est une personne qui a fait un combat extrêmement lourd, ça lui a coûté extrêmement cher en temps et en argent pour arriver à un résultat vraiment mitigé, finalement au bout du compte. Donc moi je me suis posé la question, alors passons au niveau au-dessus, on regarde, finalement la protection des données personnelles, en fait ce qu'on veut c'est protéger l'individu. Et dans la protection des données personnelles, elle se trouve à l'article 13 de la Constitution, où toute personne a le droit d'être protégée contre l'abus contre ses données personnelles. Enfin non, contre les données qui la concernent. Et finalement, c'est pas suffisant. Donc j'ai cherché à regarder quels étaient les mécanismes de protection de l'individu de manière générale dans la Constitution. Et alors là, on peut les retrouver. On se rend compte qu'il se trouve dans l'article 10, c'est trois articles un peu plus haut, où effectivement on a un droit à la vie. Et tout être humain a le droit à la vie, à part de peine de mort interdite. Mais surtout, c'est le deuxième alinéa qui est intéressant, c'est que tout être humain a le droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique, et à la liberté de mouvement. Et qu'est-ce qu'on voit quand on lit ce texte-là? C'est un texte qui n'a pas franchement bougé depuis 1848, et qui vient directement de la construction des droits humains. Donc tout le mouvement qui est au XVIIIe siècle par rapport à ça. Et pourtant, on voit qu'il y a une définition sur ce que, il y a une relation entre la liberté et puis l'intégrité physique et psychique. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que d'abord on parle d'un être humain. La Constitution parle d'un être humain mais ne définit pas ce que c'est un être humain. Elle parle d'un être humain et elle veut un être humain qui soit libre. Ça tombe bien, moi aussi c'est ce que je veux. Je veux un être humain qui soit libre et qui puisse prendre ses propres décisions, qui ne soit pas influencé par sa bulle informationnelle sur Facebook par exemple, qui vient être perturbé par des institutions comme Cambridge Analytica. Moi, je veux des humains libres qui sont capables de prendre des décisions. Et pour cela, la Constitution va garantir l'intégrité physique de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous marchez dans la rue, vous êtes protégé contre une agression physique par la loi. Et ça, c'est très important pour que vous soyez un citoyen libre de voter et de prendre vos propres décisions. Parce que si vous avez peur, parce que vous avez pris une décision X, d'aller dans la rue parce que vous risquez de vous agresser et que la personne qui vous agressera ne sera pas punie pour la loi, ben, vous allez forcément changer votre comportement, vous ne serez pas libre. De la même manière, la Constitution garantit aussi l'intégrité psychique de la personne. Psychique, c'est quoi? C'est toutes vos émotions, vos pensées, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Et pourquoi on vous garantit? Pareil, parce que la manipulation, le harcèlement, ce sont des choses qui peuvent venir influencer votre jugement et donc vous rendre moins libre pour prendre une décision en tant que citoyen dans un État. Pour autant, on peut accepter que la publicité, c'est une forme de manipulation qui est admise par la société. Donc on a des choses qui sont acceptées et d'autres non. Et finalement, cet article 10 met une relation entre cette intégrité physique et psychique et la garantie de la liberté. C'est une condition finalement de la liberté individuelle qui, pour une constitution qui représente la structure de l'État finalement, c'est important pour que vous soyez, qu'on soit un citoyen émancipé et libre, à la fois pour l'économie ou pour tout simplement voter. Donc je me suis posé la question tout simplement, est-ce que finalement, ce ne serait pas cette protection de l'intégrité numérique, serait pas aussi un élément qui permettrait de garantir la liberté de la personne dans son ensemble, sachant qu'aujourd'hui, notre personne est aussi existante d'un point de vue numérique. Je vais juste revenir là. L'intégrité numérique, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va la définir? De la même manière que l'intégrité physique et l'intégrité psychique. elle n'est pas définie dans la Constitution. L'intégrité physique n'existe, il n'y a pas de définition de cette intégrité physique. En fait, c'est une construction de jurisprudence, une construction de concepts au fur et à mesure. On sait que finalement, le corps qu'on a, ça fait partie, enfin, on a cette intégrité physique. Si on coupe une jambe, c'est une atteinte contre mon intégrité physique. Mais pour autant, quelqu'un qui a déjà perdu une jambe conserve toujours une intégrité physique. Et on n'a pas le droit de changer. Donc la définition de corps, par exemple, elle est toujours disputée. Elle est toujours discutée. Et encore aujourd'hui, par exemple, la notion de depuis à quel moment on devient un être humain, fœtus ou embryon, la question est toujours assez vivace. Pareil pour le psychisme, comme je vous ai dit, entre de la publicité et de la manipulation, il y en a une qui est une forme qui est acceptée, l'autre qui ne l'est pas. Donc les conséquences de reconnaître cette intégrité numérique seraient lesquelles ? La première chose, c'est que, pour une fois, ce qui est rare dans ce domaine-là, mais pourtant on a travaillé, c'est qu'on peut finalement résumer une évolution dans le domaine de la protection des données en un seul mot dans une constitution. Alors que d'habitude, c'était toujours des pavés de 80 pages ou des experts qui sortent des notions très très compliquées. Là, on a un seul mot qui peut venir s'ajouter dans la constitution et d'un coup, les gens disent « Ah bah oui, effectivement, j'ai mon corps, j'ai mon esprit, j'ai mes données. Ça fait déjà, à partir du moment où j'existe aujourd'hui, je suis représenté dans des bases de données et l'utilisation de ces données a une influence sur moi directement. Hein. Donc une erreur dans une base de données, une influence sur ma personne, et peut causer des problèmes physiques, même si ça entraîne, par exemple, une manipulation grave de la personne. Donc il y a des liens, et c'est déjà ceux-là, ils sont déjà prouvés. Donc c'est simple pour l'ensemble de la population. Donc vu que c'est simple, d'un coup, ça devient un outil. Ça devient un outil, c'est-à-dire qu'on peut aller devant le juge en disant « Oui, mais... je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais mon intégrité a été touchée. » Dans le cas de Schrem ou dans le cas de Monias, on a dû prouver, grâce à des connaissances de bases de données, de comment les bases de données relationnelles fonctionnent, de comment les données peuvent être transmises de l'entreprise à l'entreprise et à travers différentes juridictions sur des serveurs, on a pu pousser les entreprises au bout et à modifier certains de leurs comportements. Mais c'est quelque chose de très technique et les personnes qui se battent là-dedans sont des techniciens. Mais il faut que pour que la protection du monde numérique, des personnes numériques, de la personne dans leur environnement numérique soit garantie, c'est que chacun puisse agir avec cet outil-là. Et que chacun puisse venir, à même titre que je me suis fait agresser dans la rue, que je me suis fait agresser numériquement contre mon intégrité numérique. Pour la justice aussi, c'est un outil qui va lui permettre d'intervenir dans des domaines qu'on ne connaissait pas avant. Par exemple, de concevoir l'intégrité numérique par rapport au droit pénal, de l'intégrer sans avoir à étudier une loi sur la protection des données aussi, qui est assez très technique. Une conséquence juridique, c'est finalement la même conséquence que le corps a eue. Le corps... pendant un moment, a été un objet, pendant longtemps, et puis on était dans un espace de servitude. Il y avait un espace de servitude qui allait jusqu'à l'extrême de l'esclavagisme, mais il y avait un mécanisme de servitude où on était, finalement, même en Europe, on était la propriété du domaine dans lequel on était. On était inclus en tant que paysan avec ce domaine-là. Les données aussi aujourd'hui sont des objets. Ce sont des objets qui sont directement de la propriété de celui qui gère la plateforme sur laquelle vous allez faire une action. Donc là, d'un coup, si on reconnaît l'intégrité numérique d'une personne, on va avoir comme première conséquence, aussi, que les données ne sont plus considérées comme des objets, mais comme un élément de la personne. Si les données deviennent un élément de la personne, elles deviennent indisponibles juridiquement. Alors, indisponible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par base, de la base, on ne peut pas faire de contrat sur ces données-là et que tout vient en exception, finalement. Hein. Et c'est exactement comme le corps. Toutes les interactions que vous avez avec votre corps sont des exceptions à la loi qui est normalement interdit. Le médecin a le droit d'intervenir sans votre consentement pour vous sauver la vie, ça c'est ok. Vous avez le droit de vous faire couper les cheveux chez un coiffeur, il ne va pas aller en prison pour ça. Mais par contre, si quelqu'un vous agresse avec des couteaux et des ciseaux et vous coupe les cheveux dans la rue, ça c'est une agression physique. Donc on va trouver comme ça des équilibres. Et dans la même manière, avec les mêmes mécanismes juridiques, on va trouver on va adapter au fur et à mesure notre corpus juridique pour faire la liste des exceptions et pour concevoir finalement, dans le cadre de l'évolution technique aussi, de comment est-ce qu'on exprime notre humanité numérique, parce que les outils vont changer, on ne va pas tout le temps être sur notre Facebook, il va y avoir d'autres outils. Comment est-ce que justement on va adapter cette définition finalement de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc les données deviennent, comme je disais, un élément de la personne. Comme conséquence aussi, et ça je le vois dans mon métier, parce que je travaille dans les crypto-monnaies, pour certains qui savent aussi, c'est un domaine assez poussé dans l'économie, dans le monde du numérique, c'est le développement de l'économie numérique basée sur la cryptographie. Et aujourd'hui on voit plein de développements, et notamment des développements qui sont liés à l'émancipation des entreprises, des individus, par l'utilisation de signatures électroniques, de protocoles ouverts, pour faire des échanges purement numériques, hein, avec des valeurs, des nouvelles formes de valeurs numériques. Et dans ce domaine-là, on a besoin de gens qui sont émancipés, qui peuvent se défendre, qui peuvent aller devant un juge en disant « je me suis fait attaquer » et pas être à devoir, pas devoir démontrer finalement toute la complexité du système. Donc, moi je suis convaincu que pour développer une économie numérique qui sera vraiment respectueuse des individus, il faut reconnaître finalement l'existence de ces individus dans leur aspect numérique. Donc, pour faire ça, on va tout simplement ajouter un mot dans la Constitution. Alors ça paraît peut-être prétentieux de dire on va toucher à l'article 10 alinéa 2 qui est un des fondamentaux de la Constitution. Mais je pense que c'est un article que les gens peuvent comprendre. Et que ça va être un article qui va donner beaucoup d'ampleur finalement à la prise en main par les citoyens de leur élément, de leur espace numérique. Alors pour ça, on lance pas tout de suite une initiative, on lance un processus. On pourrait très bien, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça finalement très évident, ils discutent deux minutes avec nous, ils reviennent deux jours plus tard en disant mais, en fait c'est tout bête ton truc, on va le faire. Et puis donc on s'est dit à un moment donné pourquoi on va juste pas à Berne, on explique ça et puis c'est fait un peu intégré facilement. Mais on veut qu'il y ait un débat, on veut que ce débat se fasse, on veut que ces débats sortent de la technicité de la loi des protections des données. On voit bien qu'à Berne, la plupart de nos représentants n'arrivent pas à concevoir ce débat-là, et d'ailleurs, ils comprennent tellement peu ce débat que quand la RGPD arrive, ben on ne fait rien, il y a un freeze, on a peur, on ne sait pas ce qui se passe, donc on va rester sur on fait des décalages en plus assez importants. Mais là, on va retourner sur des notions simples, des notions d'humain et des notions de droit que les gens maîtrisent déjà. Donc, mais on veut que ce débat se fasse. Donc pour ça, on a lancé une association qui s'appelle l'Association pour la reconnaissance et la protection de la vie numérique. On a lancé avec Amanda Gavilanes, qui est juste ici, qui est la secrétaire générale et qui porte le projet au quotidien. On a Michael aussi qui est dans l'Assemblée et qui est le trésorier. Et on peut aller là-bas et puis vous verrez le petit texte, un mini-argumentaire, on est au tout début. Mais on se donne les moyens, déjà maintenant pendant les 6 prochains mois, de construire le texte, enfin, le texte est simple, de construire l'argumentaire, de construire les relations et d'aller déposer ce texte pour pouvoir ensuite lancer l'initiative et la récolte de signatures, on espère, le plus tôt possible. D'ici l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Alexis.